Bien, bonsoir à vous tous. Et bonsoir et bravo pour votre fidélité. Hein, on est dans la dernière ligne droite. Hein. Il reste la 8, la 9 et la 10. Donc ce soir, la 8, il restera 2. Alors la semaine prochaine, il n'y a pas, hein, parce qu'on a une semaine d'édification ici à la Possession. Et donc, il faut qu'on soit tous réunis ensemble pour cette semaine d'édification. Donc on se retrouvera dans 15 jours. Mais justement, ça va vous permettre de bien remplir la feuille hein, que je vais vous donner à la fin. Parce que cette dernière ligne droite, si vous représentez un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh ben c'est celle qui concerne la relation avec les autres. Ce n'est pas la plus facile. Donc, on a vu un petit peu dans l'introduction ce que le péché représentait sur cette terre, d'accord ? On a vu un peu la puissance du péché dans nos vies et combien nous sommes des victimes au final. Hein, que finalement, eh ben, tout ce qui nous est arrivé, eh ben, ça arrive aux autres aussi sous différentes manières, mais tout le monde est victime du péché. Et donc, à partir de là, on a revu un petit peu toute notre histoire en fonction de ce péché-là, en fonction de ce mal qui n'est pas spécifique à nous. Ce n'est pas une histoire qui nous est arrivée personnellement parce qu'on est, on n'est pas bon, parce qu'on est inférieur aux autres, parce que... Non, l'ennemi a essayé de nous culpabiliser là-dessus. Mais en réalité, c'est tous les êtres humains qui sont victimes de ça. Donc ça relativise un petit peu ce qui nous est arrivé. Maintenant, on ne va pas se complaire dans un rôle de victime. Hein. Nous, on est là pour vivre la vie de Dieu. Dieu nous a donné sa vie et quand on reçoit la vie de Dieu... On enlève la malédiction, on est pardonné de nos péchés, on n'a plus cette malédiction qui pesait sur nous parce que nous étions sous la puissance du péché. Donc on a compris tout ça, on a fait la paix avec Dieu parce qu'on a quand même vu que tout seul, on ne s'en sortait pas, malgré notre bonne volonté. Et ben, comme dit l'apôtre Paul, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Et donc on voit que nos relations en pâtissent. Et comme on a vu à travers le verset du docteur de la loi qui provoque Jésus et qui dit que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Et le docteur de la loi, lui, il répond ce qui est dans la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela. Et c'était quoi la réponse? Soigne tes relations. Mais nous, on voit bien qu'avec ce péché-là qui est en nous, on a besoin de Jésus-Christ pour que nos relations ne sont pas sans arrêt mis à mal. Hein, parce que ce que l'ennemi veut, c'est briser nos relations. Briser les relations avec notre famille, briser les relations avec notre époux, notre épouse, avec nos parents, nos enfants. En fait, s'il arrive à toucher le cœur de nos relations, alors il aura gagné. Hein, et on sera encore plus malheureux que nous étions dans nos relations. Donc, la solution, c'est vraiment de soigner nos relations. Hein, et encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que dans un cadre, hein, dans un cadre, c'est-à-dire qu'un cadre, ça limite les choses, ça borne les choses. Parce qu'il ne faut pas tomber dans un cadre où on sort des limites et on rentre dans ce qu'on appelle l'abus et qu'on va essayer de rétablir et de soigner des relations qui sont à la base abusives. Ça n'aurait pas de sens. Hein, c'est-à-dire que je me suis fait mal avec cette personne-là parce que le péché l'a touché comme tout le monde, mais ce n'est pas pour autant, même si je peux comprendre qu'elle aussi, elle est victime du péché, mais ce n'est pas pour autant que je dois, moi, devenir un bouc émissaire pour cette personne-là, et puis sans arrêt, aller prendre des coups. Ce n'est pas le but du jeu. Hein. Donc, on parle bien là de soigner des relations dans un cadre où on est respecté. On va respecter les autres et on est respecté par les autres. Après, voilà, il arrive qu'on ne se comprend pas, il arrive que dans nos relations, ça soit tendu, on soit fâché. Bref, c'est dans ce cadre-là qu'on demande de faire la paix. D'accord ? Mais vous comprenez bien que je ne parle pas dans un cadre où on serait sorti des limites et qu'on serait abusé et que vous compreniez dans mes propos que ce n'est pas grave. Il faut quand même se réconcilier, il faut continuer à vivre les relations. Non. On va pardonner, parce que c'est important, on va le voir ce soir, c'est important de pardonner, mais après, si la personne est abusive, on ne va pas aller retourner vers elle. Je vous donne un exemple simple. vous avez dans la famille quelqu'un qui a un problème sexuel, d'accord ? Et vous avez été violé. Malheureusement, c'est fréquent à La Réunion. Ben, vous n'allez pas retourner vers cette personne-là parce qu'il faut soigner les relations. Vous allez pardonner, même si ce n'est pas facile, mais on verra pourquoi il faut pardonner. C'est d'abord pour nous. Vous allez pardonner, mais après, vous allez mettre de la distance avec cette personne. Vous comprenez la nuance, hein ? Pardonner, ça ne veut pas dire que absolument se réconcilier. Il faudra qu'elle donne des preuves, et encore, en connaissant la puissance du péché, si la personne n'appartient pas à Christ, ça sera très compliqué. Il faudra prendre beaucoup de précautions. Hein, parce que si elle n'appartient pas à Christ, elle n'aura pas le pouvoir de maîtriser ses pulsions et de corriger ses dysfonctionnements. D'accord ? Donc, on est dans ce cadre-là où on a fait la paix avec Dieu parce qu'on a besoin de lui et on a compris une bonne théologie de Christ et que Dieu est là pour nous. Il est là, il n'est pas contre nous. Ce n'est pas un Dieu légaliste, ce n'est pas un Dieu qui est là pour que l'on souffre ou pour nous punir ou je ne sais pas quelle théologie bizarre. Non, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui nous aime et un Dieu qui veut qu'on vive la vie qu'il a prévue pour nous. Amen. Et la deuxième chose qu'on a fait en avançant tranquillement, ben, on a fait la paix avec nous-mêmes. Chose fondamentale, parce qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres, mais ça commence déjà par avoir une bonne image de nous-mêmes, de se pardonner de tout ce qui nous est arrivé, parce qu'on est des victimes, et qu'on ne va pas sans arrêt s'auto-flageller et entrer dans une culpabilité. On a été victime, ok, et ben, Dieu nous rétablit, Dieu nous restaure, hein, et Dieu nous dit que nous sommes des merveilleuses créatures. Et on ne va pas aller à l'encontre de ce que Dieu pense de nous-mêmes. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc tout ça, ça demande une restauration où on apprend eh ben, à se déculpabiliser, à ne pas avoir honte. Hein. Donc on a revu un petit peu l'histoire de notre vie, d'accord ? Et puis on a demandé à Dieu eh ben, de nous pardonner de nos péchés et aussi de nous enlever tous les dysfonctionnements qu'on a pu mettre à la lumière parce que personne n'est immunisé contre le dysfonctionnement. D'accord ? Et là, on en est là. On est à l'étape 8. Et 8, 9, 10, c'est la dernière ligne droite. Ben maintenant qu'on a fait la paix avec Dieu, maintenant qu'on a fait la paix avec notre propre humanité, c'est-à-dire notre histoire, notre humanité dans le sens de nos limites, nous ne sommes pas parfaits. Mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais pour autant. Et bien, une fois qu'on a fait la paix avec tout ça, il nous reste à faire la paix avec les autres parce que si on veut être heureux dans cette vie, il faut qu'on soit en paix avec Dieu, il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes et il faut qu'on soit en paix avec les autres. Vous comprenez ? C'est ça la réponse du docteur de la loi à Jésus. Quand Jésus lui demande « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Imaginez-vous que là, le mot « vie éternelle », c'est la vie maintenant et ici. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en grec « zoé ». C'est ce qui a créé la terre. C'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de vie. C'est une puissance de régénération. C'est une puissance de résurrection. Ça veut dire que ce que le péché avait réussi à détruire en toi, ce que le péché avait réussi à détruire dans tes entrailles, eh bien, Dieu est capable de ressusciter tout ça. Il est capable de te redonner le goût de la vie. Il est capable de te reconstruire. Et c'est ça que Dieu veut faire. C'est-à-dire que l'ennemi avait gagné une bataille, mais en te donnant à lui et en te restaurant, Dieu te redonne ce que l'ennemi t'avait volé. Amen. Hein? Et donc, on est dans ce schéma où on va sortir de cette restauration, si on a bien travaillé, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas grave, on continue, eh ben, c'est qu'on veut être en paix avec tous les hommes, avec un grand H. Okay? C'est ça l'histoire, c'est qu'on est bien dans notre peau, on est bien avec les autres et on n'a plus d'ennemis. Hein? On a vidé le placard, on a fait le nettoyage, tout ce qu'il y avait dans le placard de sale, tout ce qui nous faisait honte, tout ce qui était dans le placard, on a nettoyé tout ça et maintenant nous sommes ces nouvelles créatures. Amen. Donc voilà où on en est et donc On continue un petit peu ce soir avec l'étape 8, un regard sur les personnes qui ont traversé notre vie. Et ce n'est peut-être pas l'étape la plus facile. C'est pour ça que même si on est sur la dernière ligne droite, on s'accroche, hein, parce que ben, il va falloir revoir un petit peu toutes les personnes qui ont traversé notre vie. Et il est possible, même en tant que chrétien, qu'il y a des gens à qui vous n'avez pas encore vraiment totalement pardonné. Hein? On peut l'avoir fait avec les lèvres, mais là, on va voir que ce n'est pas avec seulement les lèvres qu'il faut le faire, c'est qu'il faut que cette personne-là soit guérie dans notre cœur. Il faut qu'on a appris à la relâcher, hein? À la laisser partir, à la relâcher, de façon à ce que nous ne soyons plus esclaves de cette personne-là. Parce que quand on ne pardonne pas, bon, j'anticipe un petit peu, mais quand on ne pardonne pas, eh ben, on est encore prisonnier de l'offense que cette personne-là nous a fait. Elle nous a fait mal, elle nous a offensé dans le sens qu'elle a détruit une partie chez nous. Et si on ne lui pardonne pas par la grâce de Dieu, et on verra que le pardon, ce n'est pas un quitus, hein, c'est pas « Ah ouais, d'accord, on pardonne, donc maintenant elle est tranquille, elle peut faire ce qu'elle veut. » Non, non, non. On verra que tout ça, on met tout ça dans les mains de Dieu parce qu'il y a la justice de Dieu et c'est Dieu qui fera justice. Donc, on renonce à faire justice nous-mêmes parce qu'on veut gagner cette liberté. On veut vivre cette liberté. Alors, on renonce à notre propre justice et en disant, Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui feras justice. Et moi, je relâche cette personne-là. Voilà un petit peu les enjeux des trois prochaines étapes. On va se mettre dans la présence de Dieu. On y est déjà. Avec ce petit chant qui nous dit « Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi parce que là, nous sommes dans cette phase où nous demandons à Dieu ben, d'enlever nos défauts et nous croyons qu'il est en train de le faire. La parole de Dieu nous dit que si vous demandez quelque chose dans la volonté de Dieu et si vous croyez que vous l'avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Okay. Donc, on croit, on a demandé à Dieu d'enlever nos défauts, d'enlever nos dysfonctionnements. On croit qu'il le fait, alors on le verra s'accomplir. Amen. Maintenant, j'affirme que ce n'est plus ce que les hommes ont dit sur moi qui me définit. Non, ce qui me définit, c'est ce que Dieu dit sur moi à travers sa parole. Amen. On en est là. On en est là. Avant, on ne le savait pas. Ce que les hommes ont pu dire sur nous, hommes avec un grand H, hein, que ça a commencé par nos parents, après il y a eu les frères et sœurs, après il y a eu l'école, après il y a eu le harcèlement scolaire, après il y a eu les copains au lycée, après il y a eu tout ce qu'on a pu dire sur nous, ça nous a définis. Ça nous a collé des étiquettes. Ça nous a donné une estime de nous-mêmes en fonction de ce que les autres pensaient de nous. Et en quelque sorte, ce qu'on était dépendait des autres finalement. Et c'est pour ça que les jeunes font tellement d'efforts pour plaire dans un groupe, pour être comme tout le monde, pour être accepté des autres. Et ça fait qu'on est défini par les êtres humains. Mais quand on vient à Christ, quand on est cette nouvelle créature, alors on s'affranchit du regard des hommes. Et on dépend de Dieu. Amen. Maintenant, celui qui a le droit de citer sur moi, celui qui a le droit de dire des choses sur moi, c'est Jésus-Christ. Amen. À partir de maintenant, conformément à sa parole, j'aime tous les hommes de l'amour de Dieu. Mais je ne suis plus prisonnier de leurs paroles et de leurs actes. Amen. Le Seigneur nous a rendus libres. La parole de Dieu nous dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. Et nous sommes libres de quoi ? Eh bien, nous sommes libres du regard des autres. Nous sommes libres de la parole des autres. Maintenant, c'est Dieu qui a le pouvoir de nous définir. Et c'est très important, frères et sœurs, parce que dans une relation, on ne cherche plus à plaire aux autres. Nous sommes ce que nous sommes. Et les autres nous regardent, certains vont nous apprécier et d'autres non. Et là, on est dans la réalité. On ne cherche plus à faire l'unanimité parce que ça n'existe pas. Vous imaginez, près de 8 milliards sur la Terre, et j'exige que les 8 milliards trouvent que Bertrand, mais c'est un super gars. 8 milliards qui pensent ça. C'est impossible. Donc il faut qu'on soit réaliste, d'accord ? Et de dire aujourd'hui, je ne cherche plus à plaire aux hommes. Je plais à Dieu. Amen. Et les hommes, eh ben, si ils trouvent que je suis intéressant, gloire à Dieu. Et s'ils trouvent que je ne suis pas intéressant, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Alléluia. Mes réactions sont désormais conditionnées par la parole de Dieu. Et je les rends libres en leur pardonnant leurs fautes comme je leur demande de pardonner les miennes. Amen. Vous ne trouvez pas que ça sonne un peu plus vrai, ça ? Vous ne trouvez pas qu'on est dans quelque chose de plus réaliste ? Hein ? Je recommence. Mes réactions sont désormais conditionnées par la parole de Dieu et les autres, je les rends libres. C'est-à-dire, ils m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Ils sont libres. D'accord ? Je les rends libres et je pardonne leurs fautes parce que des fois, ils vont dire des choses sur moi, forcément, qui ne sont pas agréables. Ça va arriver. Ce qu'on appelle les fameuses flèches. Et moi, je leur demande aussi de me pardonner, parce que moi aussi, je vais faire des erreurs. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus équitable. On est ensemble, on va se dire des choses des fois, tu vas me faire mal, et des fois, je vais te faire mal. C'est la réalité. Hein? Ceux qui sont en couple, ils le savent bien. Ça résonne dans leur cœur, ce que je viens de dire. Hein? On s'aime, mais des fois, on va se faire mal. Et on a besoin de se pardonner mutuellement. Ben sinon, on ne va pas aller loin. Nous sommes devenus cette nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le passage dans le royaume de Dieu. Nous étions des anciennes créatures avec nos péchés, avec nos dysfonctionnements, avec tout ce qui n'allait pas en nous, nos colères, avec les choses qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Ça, c'était avant. Et maintenant que nous sommes en Christ, parce que, hein, il est bien dit, si quelqu'un est en Christ, hein, il y a quand même une condition. On est en Christ, c'est-à-dire qu'on a donné notre cœur à Dieu. Eh bien, les choses sont devenues nouvelles. Et dans la réalité, il y a un processus. Les choses sont en train de prendre place. Les nouvelles habitudes sont en train de prendre place. Et c'est cette vie de sainteté qu'on commence dans notre vie chrétienne. Hein. De mieux en mieux, eh ben, on voit que le péché a de moins en moins d'emprise sur nos vies. Et c'est ça, cette marche de sainteté. C'est que petit à petit, eh ben, on s'approche de Dieu de plus en plus. On veut plaire à Dieu. On a cette crainte, une sainte crainte de Dieu, parce que c'est basé sur l'amour, et donc on ne veut plus déplaire à Dieu. Et notre volonté de ne plus déplaire à Dieu, plus sa puissance, nous permet de ne plus être sous l'emprise du péché. Amen. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous avons été réconciliés parce que Christ a payé le prix à la croix de nos péchés. Donc on est réconcilié, la dette a été payée, ce que Dieu avait exigé qu'il y ait quelque chose à payer parce qu'on avait désobéi par nos ancêtres évidemment, et ben nous sommes réconciliés et maintenant que nous avons été réconciliés, et ben c'est à nous de nous réconcilier avec les autres et de faciliter la réconciliation. C'est ça le ministère de la réconciliation. On est là maintenant pour que il y ait maintenant cette relation d'amour entre nous et les hommes et entre Dieu et les hommes et nous avons ce ministère de réconciliation. Donc, si on fait un petit résumé, hein, pour reprendre les versets qu'on avait au tout début, mais maintenant on va passer au passé. Ta tête avant était entièrement malade et tout ton cœur était souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'était en bon état. Ce n'était que blessures, contusions et plaies vives qui n'avaient été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Hein, ce verset, on l'a utilisé dans l'introduction. Isaïe insiste pour montrer l'être humain dans quel état il est. D'accord ? Et donc, cet état-là de blessure, on était tous blessés parce qu'on n'a pas été réconciliés avec Dieu, eh ben, ça nous avait entraîné des émotions hein, comme la peur, la honte et la culpabilité. C'est la puissance du péché qui emmène la déchéance humaine. L'homme est déchu, l'homme est maudit, hein, et la puissance du péché, c'est qu'il y a une autorité du péché sur nous à travers la peur, à travers la honte, à travers la culpabilité. Tu avais perdu ta sécurité, ta vie n'avait plus de valeur, tu ne te sentais plus aimé. La honte te faisait ressentir un mal-être en toi, les blessures ont fini par définir ton identité. Et enfin, ta culpabilité, tu étais capable de faire le mal que tu ne voulais pas faire et le bien, tu ne le faisais pas. Voilà où on en était. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout change. Tout est en train de changer. Il a changé ton cœur en recevant l'amour de Dieu. Tu as fait la paix avec Dieu, il t'a redonné ta véritable identité. Maintenant, ton identité est basée sur ce que Christ a fait pour toi. C'est-à-dire que maintenant, il t'aime, il te le fait savoir, tu appartiens à Christ. Tu n'es plus cet orphelin sur la terre où tu vivais seul spirituellement. Maintenant, tu appartiens à Christ, tu as de la valeur parce qu'il est mort à la croix pour toi. Ta valeur, il te l'a montré à la croix et tu bénéficies de tout son amour. Ensuite, tu as fait la paix avec toi-même. Tu as démasqué la honte et tu l'as fait disparaître par le moyen de la confession. Et maintenant, tu vas te libérer de la culpabilité en reconnaissant ta responsabilité et en réparant tes torts. Ce que l'on va voir dans les prochaines étapes, c'est que ça se passe à deux niveaux les relations. Il y a ce qu'on m'a fait et ce que j'ai fait. Il va falloir trouver l'équilibre. Parce qu'on n'est pas des petits saints. Maintenant, on est des saints devant Dieu. Mais je veux dire que dans notre ancienne vie, eh ben, on a été amené à faire des choses. Et si on est honnête, on n'a pas toujours fait que du bien. Et donc ça, on va réparer les torts dans la mesure du possible. Mais en tout cas, on va mettre tout ça à jour pour ne plus avoir cette culpabilité qui peut peser sur nous quand on ne confesse pas ces choses-là. Voilà un petit peu sur quoi on va travailler. Le résultat, c'est un cœur changé qui va produire le fruit de l'esprit, l'amour et toutes les déclinaisons, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là qui viennent de l'amour de Dieu, l'amour qu'on appelle agapé, l'amour envers ton Dieu pour ce qu'il est, l'amour envers toi pour ce que tu es, une merveilleuse créature avec tes qualités et tes défauts, et enfin, ce qu'on va voir, l'amour envers les autres, en les acceptant comme ils sont, sans les juger, avec miséricorde et compassion. C'est important hein, d'accepter, si on veut rester en paix, c'est important d'accepter les autres comme ils sont. D'accord ? On n'a pas le pouvoir de les changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper quand on prend quelqu'un, parce qu'on n'aura plus le pouvoir après de les changer. Donc, on apprend à les aimer comme ils sont. Donc, l'enjeu de cette huitième étape, eh ben, c'est celle-ci. Hein. Donc, c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine. Hein. C'est de dresser une liste. Et là, vous prendrez ces feuilles-là à la fin. On dresse une liste de toutes les personnes que nous avons lésées et consenti à réparer nos torts quand cela sera possible. Donc, on est vraiment dans ce grand nettoyage où on regarde les gens qui ont passé dans notre vie. Et on va, un par un, on va regarder les torts qu'on a fait et on va demander pardon à ces gens-là à qui on a fait du tort.
Ah, pardon. Bah, tous les gens peuvent aller voir pour leur demander pardon.
Mais il faut que dans ton cœur, tu pries pour leur demander pardon.
D'accord.
Et si tu as l'occasion de leur demander pardon, tu le fais.
D'accord.
C'est ça, réparer ces torts.
Ils sont morts aussi, hein.
Oui, mais on verra que même mort, tu peux demander pardon, d'accord ? Parce que c'est toi qui vas être libéré.
Mais pas aller absolument un par un leur demander pardon physiquement.
Ben, si tu peux le faire, et si ton cœur te le dit, et on verra dans quelles conditions, quelquefois, le Saint-Esprit te montrera qu'il vaut mieux pas le faire parce que ça va être pire que si tu le fais. Donc, il faut être équilibré. Hein? Mais là, on est en train de griller les étapes. On va y aller mollo. OK? Donc, dans cette nouvelle étape, il est question de faire un bilan sur vos relations passées et présentes. C'est un premier pas absolument déterminant pour vous affranchir du passé. Hein, si vous, et vous assurer un avenir serein. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est d'être en paix. L'enjeu, c'est de vivre vraiment libéré de tout ça. Donc, c'est un travail de fond qui se fait pour qu'on soit affranchi du passé et qu'on puisse voguer sur une mer calme. Les relations humaines constituent un immense paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent à la fois à notre besoin d'aimer et d'être aimé, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais en même temps, elles sont la source de nos maux, M-A-U-X, les plus profonds. Sacrée contradiction. On a besoin des autres pour être aimé et aimé. C'est notre nature. On a été créé comme ça. On ne peut pas dire, moi, j'ai besoin de personne. Ça n'existe pas. On a besoin des uns des autres. Mais en même temps, ces personnes-là que nous allons aimer, eh ben, c'est par cette personne-là qu'on sera le plus blessé. C'est une réalité. Et il faut vivre avec cette réalité-là. Nous guérissons en faisant la paix dans nos relations. Ça, il faut le savoir. La guérison, elle ne se fait pas d'une manière magique. Elle ne se fait pas sans qu'on soit confronté à la réalité de la relation. Non, non. Il faut qu'on mouille le maillot parce qu'on va guérir en faisant la paix dans la relation. Et en tout cas, toi, de prendre ta responsabilité. Parce que vous comprenez que pour faire la paix dans une relation, il faut être deux. Si l'autre ne veut pas faire la paix, ben vous ne pouvez pas le forcer à faire la paix. Vous ne pouvez pas le choper et lui dire « je fais la paix avec moi ». Ça ne marchera pas. Donc, par contre, vous, vous pouvez faire la paix. Vous, vous pouvez lui dire « je te pardonne de tout ce qui s'est passé ». Point. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, on verra. Vous pouvez lui envoyer un texto, vous pouvez lui écrire une lettre. Il y a différentes manières pour vous libérer de tout ça. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de cadavres dans le placard. Il n'y a plus de squelettes qui traînent dans le placard. Donc, nous guérissons en faisant la paix dans nos relations. Cela implique identification des tensions ou des conflits, passés ou présents, engager le processus du pardon et dans la mesure du possible, et regardez bien ce que j'ai rajouté, si c'est souhaitable, se réconcilier. D'accord ? Quelquefois, ce n'est pas souhaitable. Parce que la personne n'a pas changé, ne changera pas. Et donc, il faut accepter que c'est la vie. Moi, je vais engager le processus du pardon, mais par contre, je ne vais pas renouer des relations avec cette personne. Parce que ce sont des relations toxiques. D'accord ? C'est des relations qui ne respectent pas le cadre, on va dire, légal que nous avons tous besoin dans des relations basées sur le respect, basé sur l'amour et basé sur la valorisation. D'accord ? Si vous êtes avec quelqu'un de toxique qui vous dévalorise sans arrêt, alors je vous conseille de ne pas continuer les relations avec cette personne-là. Parce que c'est toxique. Vous comprenez ? Par contre, pardonner pour ce qu'elle nous a fait, oui, ça c'est nécessaire. Mais vous voyez la différence ? Hein ? On peut pardonner. Pourquoi pardonner ? Parce que c'est une clé de l'évangile. Hein ? La Bible dit que si vous voulez être pardonné, il faudra que vous pardonniez aux autres. C'est la clé. Hein ? Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne aux autres. Donc, on ne peut pas espérer recevoir le pardon de Dieu si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas aux gens qui ont traversé notre vie. C'est une clé. Mais pardonner, on le verra, le pardon, il faut que ça soit bien enseigné parce que le pardon, ce n'est pas un quitus pour la personne. Hein? Elle aura des comptes à rendre. Un quitus, c'est-à-dire, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant, c'est trop facile pour elle. Non, non, non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, non. Dieu a dit, à moi la justice, à moi la rétribution. D'accord ? Tout le monde, chacun de nous, on va passer un jour devant le tribunal de Christ. et toutes nos actions sont notées. Il y a le grand livre qui sera ouvert et toutes nos actions sont notées. Rien ne sera laissé au hasard. Et là, on passera devant le tribunal de Christ. D'accord ? Donc, celui qui a fait ce qu'il a fait et qui n'est pas pardonné de ses péchés, eh ben, c'est là que, malheureusement pour lui, il recevra la sentence. Et je peux vous dire que ce jour-là, il ne vaudra pas, à mon avis, il n'aura pas mieux recevoir la sentence parce que ça sera radical. Ça sera de finir en enfer avec le diable. Alors, on ne souhaite pas ça à notre plus grand ennemi. Le but de cette étape, mettre à la lumière ce que les autres ont pu vous faire, mais aussi les préjudices que vous leur avez causés. Donc, on va être dans cet équilibre, hein, où on va mettre à la lumière ce qu'on a reçu de méchant, ce qu'on a reçu de mauvais, ce qu'on a reçu de toxique, mais aussi on aura une liste pour dire ce que nous aussi, on a fait de mal. Lorsque nous racontons nos histoires, nous sommes la plupart du temps dans deux positions. Écoutez bien, vous allez vous y reconnaître. Soit on est dans le rôle de la victime, soit on est dans le rôle du héros. Soit je suis une victime, ou soit je suis un héros. La victime décrit tout le mal qu'elle a enduré, les injustices qu'elle a subies. Le héros retourne la situation à son avantage en racontant comment il a su s'en tirer et comment, malgré les difficultés et les obstacles, il a su bien réagir. C'est le héros. Cependant, il existe une troisième version, rarement exprimée, qui est celle du fautif. C'est de ma faute. Celle-là est plus rare. Elle est plus rare. Vous allez plus souvent entendre la personne vous raconter l'histoire et dire que c'est la faute de l'autre, plutôt que qui vous raconte l'histoire et puis qui vous dise « mais c'est de ma faute ». C'est toujours la faute de l'autre. Vous avez remarqué ça ? C'est toujours la faute de l'autre. Quand on est en couple, on le voit très bien. Quand on est en couple, ben, on se dispute et c'est toujours la faute de l'autre. Tout le temps. Moi, j'ai rien fait. Non, c'est elle, je t'assure. Ou c'est lui. Même, ça peut même atteindre des extrêmes. Je vous raconte un extrême. Le gars, il devient violent. Il tape sa femme et il va s'expliquer. Il va dire, non, mais c'est de sa faute. En fait, elle n'aurait pas dû me provoquer comme ça. Moi, je n'ai rien demandé, moi. Hein. Mais tu sais, elle m'a tellement provoqué. Ah, je ne pouvais pas faire autrement. Ah, je l'ai pris dans un coin, là, et puis je te jure, là. Ça, c'est fou, mais vous allez voir des gens qui ne vont même pas voir leurs erreurs, même pas voir où ils en sont, et qui vont, reprocher à l'autre d'avoir agi comme ça, et c'est parce qu'elle a agi comme ça que lui, il a réagi comme ça. Wow. Ben oui. Et c'est celle qui a reçu la clé qui doit demander pardon. Ah ben c'est la fautif. Ah ben oui. Sérieux ? Il est plus facile pour les êtres humains de voir ce que les autres leur ont fait que de voir ce que eux ont fait aux autres. Comprenez ? C'est toujours difficile de dire. C'est comme dans un couple. Vous voyez ? Quand je reçois un couple, si je les prends séparément, un va me raconter sa version, l'autre va me raconter l'autre version. Et au final, vous vous demandez s'ils ont vécu ensemble. En réalité, c'est que chacun voit midi à sa porte. Et chacun, à travers sa grille de lecture, voit ce qui s'est passé et vous donne une explication. En fait, dans un couple, bon, même si ce n'est pas du 50-50, mais on fait tous des erreurs. D'accord ? C'est bien ce que Jésus a enseigné dans le sermon de la montagne, quand il dira ceci, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Jésus prend le contre-pied de ça. Ah, tu dis que c'est la faute de l'autre. Mais en réalité, ce que tu es en train de voir, c'est que l'autre, oui, il a fait des erreurs, mais il a une paille. Et toi, tu ne vois même pas la poutre qui est dans ton œil. Alors que toi, qu'est-ce que tu faisais ? Toi, tu étais en train de voir la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin et tu voyais ta petite paille. Insignifiant, la petite paille. Fallait la jumelle, fallait la loupe pour voir la petite paille. Et Jésus, il te reprend. Il te dit, espèce d'hypocrite. C'est pas une paille que tu as dans ton œil, c'est une poutre. Ah oui. Et c'est compliqué pour nous de voir ça. Donc, c'est une invitation à regarder à nos propres défauts et dysfonctionnements et à ne pas rendre toujours les autres responsables. Et là, j'ai mis, entre parenthèses, parce qu'il faut toujours le dire, mis à part les cas d'abus. D'accord ? Quand il y a un cas d'abus, là, on n'est plus dans le partage des erreurs. L'abus, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. À partir du moment où que quelqu'un te manque de respect, c'est de l'abus. On a des relations les uns avec les autres, on place un cadre, et ce cadre-là ne doit jamais être dépassé. Jamais la ligne rouge doit être dépassée. D'accord ? Le respect, la valorisation, parce que c'est un manque de respect, même si c'est un peu plus insinueux, c'est-à-dire ça peut être fait par quelqu'un qui manipule et qui te dévalorise, mais d'une façon très malsaine. Et qu'au fil du temps, par la répétition des choses, eh ben, tu finis par être abusé psychologiquement. Tu vois ? Donc, il y a des formes d'emprise comme ça qui ne disent pas leur nom, mais c'est de l'abus. D'ailleurs, c'est très à la mode, hein, parce que sur les réseaux sociaux, vous voyez ça, on est tous devenus des pervers narcissiques. Tu vois ? C'est le grand danger, c'est que tout le monde est pervers narcissique. Mais c'est le mot à la mode, en fait. Mais c'est ça. Vous avez des gens qui sont pervers, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au lieu de donner de l'amour, au lieu de valoriser l'autre, eh ben, ils sont toujours en train de dévaloriser la personne parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et que c'est comme une balance, tu vois. Si je t'appuie sur la tête, il y a une balance, ben, si je t'appuie sur la tête, moi je monte, tu vois. Toi, tu es nul, donc si tu es nul, moi je suis bien. Problème d'estime de soi. Et donc, on dévalorise l'autre parce que ben, ça nous donne l'impression d'être beaucoup meilleur que l'autre. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce et jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons des choses à corriger. Nous avons du travail pour toute notre vie. Donc, bonne nouvelle, il n'y aura pas de chômage. Jusqu'à la fin de notre vie, nous serons occupés. De la même manière que nous devons faire preuve de patience avec nous-mêmes, nous sommes appelés à avoir de la patience. Vous m'entendez ? Hein ? Je répète la phrase. Nous sommes appelés à avoir de la patience. D'accord ? De la miséricorde envers notre prochain. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez ? Les relations humaines sont très compliquées. On en a besoin. Ils sont compliqués. Il faut les entretenir. Et donc, Dieu nous montre à la croix ce qu'il faut faire. Eh bien, quelquefois, l'autre ne se rend pas compte du mal qu'il est en train de faire. Et donc, ben, on fait comme Jésus. Si on veut garder la relation parce qu'elle nous intéresse, parce qu'on a envie de la garder, eh ben, il n'y a que cette phrase-là. Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que quand on n'est pas bien, quand ça ne va pas dans notre vie, on est amené à dire des choses qu'on ne devrait pas dire, à faire des choses qu'on ne devrait pas dire. Alors, je ne parle pas, encore une fois, vous avez bien compris, je mets l'abus de côté. Hein. Je parle juste dans des relations normales. Dans une relation normale, eh ben, on va se blesser. Vous vous rappelez, dans l'introduction, j'avais conjugué le verbe blesser. Je me blesse, tu me blesses, il se blesse, nous nous blessons. C'est la caractéristique des êtres humains. Ils se blessent. Ça peut être triste, hein, parce qu'on n'est pas appelé à se blesser. Vous imaginez dans une relation que vous êtes en train de faire avec quelqu'un. Vous imaginez, vous découvrez quelqu'un, vous commencez à vous plaire et tout ça. Puis là, vous lui dites, ah tu sais, ça serait pas mal quand même qu'on se marie. Alors, la personne, elle est intéressée. Elle fait, ah ouais, tu veux le mariage, carrément. Ouais, tu vois, et puis tu vas voir, ça va être génial. Parce que tous les jours, tu sais ce qu'on va faire ? On va se blesser. Ça va être magnifique, notre vie. Tous les jours, tu vas arriver, tu vas me blesser. Et puis moi, je vais te blesser aussi. Oh, qu'est-ce qu'on va s'éclater. Tu veux te marier avec moi? Tu te barres en courant. Mais en réalité, c'est ce que les êtres humains font. C'est ce que les êtres humains font. Il y a des couples, là, je pourrais les laisser parler. Ils diraient ça. Ils diront « on se blesse ». Il y a une contradiction. On s'aime et on se blesse. Dure la vie. Hein. On aimerait mieux être chez les bisounours. Franchement, ça serait mieux. On s'aime tout le temps. Du matin au soir, tous les jours, on s'aime. Tu sais, ça serait beau. Hein. Ce n'est pas la réalité de la vie. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ne pas juger, ni critiquer, essayez de mieux nous comprendre, etc., etc. Il y a du boulot, hein ? Il y en a du boulot. Quand je vous dis qu'on n'est pas prêt d'être au chômage, c'est vrai, on a du boulot. Dans cette étape, il nous faut faire preuve d'honnêteté. Ne pas rentrer dans le déni. Nous faisons tous des erreurs et bien souvent les torts sont partagés. Mais bien souvent aussi, nous avons de la difficulté à le reconnaître. Un des signes de la guérison de notre être intérieur sera de reconnaître plus facilement nos torts. Vous voyez, quand on reconnaît nos torts facilement, eh bien, on a grandi spirituellement. Ça veut dire qu'on est bien dans notre peau. Ça veut dire qu'on ne se sent pas dévalorisé quand on reconnaît notre tort. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à reconnaître leur tort ? C'est parce qu'ils ont l'impression que s'ils reconnaissent leur tort, ça va les dévaloriser. Ils vont avoir perdu quelque chose. Mais c'est ridicule. En réalité, nous sommes juste des êtres humains et nous faisons tous des erreurs. Et de reconnaître l'erreur, c'est une forme d'honnêteté. Ça enlève en rien la valeur que j'ai. La valeur que j'ai, elle n'est pas à ce niveau-là. La valeur que j'ai, c'est Jésus-Christ qui l'a définie. Mais Jésus-Christ ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Donc, pourquoi ne pas dire « Oui, chérie, excuse-moi, je me suis trompé. Oui, je suis désolé, j'ai fait une erreur. » C'est notre ego en fait, qui en prend un coup. Mais en réalité, c'est ce qui tue la relation. Parce que l'autre, il a envie d'entendre ça de la part de l'autre. Lui dire, chérie, mais t'as déconné là quand même. Quoi ? Moi, mais ça va pas la tête. Voilà. Alors, bon, ok, d'accord. On voudrait que l'autre dise simplement, oui, c'est vrai, j'ai déconné. C'est pas compliqué. Et on serait bien. Mais là, ça nous énerve. Ça nous met en rogne. Parce que l'autre ne reconnaît pas l'erreur qu'il a faite. Et on se bouffe la rate et on est capable de s'engueuler toute une soirée parce que l'autre ne s'est pas excusé. Incroyable comment elle est notre nature humaine. Pas facile hein, de vivre avec les hommes. Pas facile. Une marche nouvelle dans l'humilité versus l'orgueil. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est soit tu choisis la voie de l'humilité et tu reconnais tes torts, soit tu ne reconnais pas tes torts et tu choisis la voie de l'orgueil. Et même, on voit bien que quelquefois, on devrait être poussé pour dire « Excuse-moi chérie, je me suis trompé ». Mais il y a quelque chose en nous, il y a un fond d'orgueil, il y a un fond de puissance qu'on a du mal à lâcher. On a du mal à le dire, c'est comme si ça nous arrache nos tripes. On a l'impression qu'on va mourir parce qu'on est en train de dire « Excuse-moi ». Moi, je l'ai fait, j'étais toujours vivant. On ne meurt pas avec ça. Les deux obstacles principaux pour dresser cette liste que vous allez faire cette semaine, c'est le déni, c'est-à-dire « Non, moi, je n'ai pas de problème, tout va bien », et la culpabilité. Dresser cette liste et envisager de réparer les torts causés aura pour conséquence de nous libérer de la culpabilité. On ne veut plus être coupable, on ne veut plus vivre sur cette culpabilité. Oui, j'ai fait des choses, soit je n'étais pas encore chrétien, soit j'ai fait une erreur, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, donc je tiens à te présenter mes excuses, te demande pardon, et maintenant je ne me sens plus coupable. Il y en a qui sont coupables toute leur vie. Donc la culpabilité agit comme un bourreau. Tu vois, qui te travaille tous les jours. Et t'es pas une bonne personne, et t'es pas ci, et t'es pas ça. Comment on peut vivre une vie de liberté, une vie où on est heureux si on a ce sentiment de culpabilité sur nous. Il faut se débarrasser de ça. Nous nous sommes libérés de la honte dans l'étape 5 en confessant nos blessures. Maintenant, nous allons nous libérer de la culpabilité en reconnaissant notre part de responsabilité dans les conflits découlant de nos relations les uns avec les autres en demandant pardon. Ce n'est pas compliqué d'être honnête avec Dieu dans le Saint-Esprit et de dire « Seigneur, là, je me rappelle, j'ai déconné. Sur le coup, je ne l'ai pas reconnu. Sur le coup, c'était mon orgueil. Mais maintenant, après réflexion, maintenant, dans cette restauration, je reconnais que là, j'ai déconné. » Point barre. Et donc, je vais appeler la personne et je vais lui dire « Ben voilà, je tiens à te dire, voilà, ça s'est passé, tu te rappelles, il y a 4-5 ans là, mais voilà, je suis en train de faire, je suis en train de me restaurer et voilà, je tenais à te dire que je te demande pardon, j'ai mal agi. » Ça va? Pas compliqué ça? Hein? Facile? Vous allez tous le faire. Facile. Alors, comment entreprendre cette liste? Par où devons-nous commencer? D'abord, qui avons-nous blessé? Nos parents? Nos enfants? Notre époux? Notre épouse? Notre mari? D'autres membres de la famille? Nos amis proches? Des personnes avec qui nous avons travaillé? Des membres de l'église? Si vous travaillez dans une église, ben, sachez que vous pouvez faire une liste avec les frères et sœurs que vous avez blessés et qui vous ont blessé. Déjà, rien qu'avec l'église, vous avez déjà une bonne liste. Parce que l'église, c'est l'école de la vie. Alors, les questions qu'on peut se poser, qu'est-il survenu? Se sont-ils sentis trahis? Est-ce que nos enfants ont développé des insécurités par nos négligences? Nos parents ont-ils été accablés par nos frasques? Avons-nous fait du tort à notre époux, à notre conjoint? Quelle est ma part de responsabilité dans ces différents conflits? Pour être efficace, je vous propose de dresser deux listes. Une première liste, les personnes qui vous ont blessé. Oh, c'est la plus facile. Cela peut paraître contradictoire puisque ce n'est pas ce que l'étape mentionne. Mais il y a une raison à cela. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous ne vous en êtes pas inquiété, il y a de fortes chances que vous soyez rempli de ressentiment et d'amertume. Quelquefois, on a pensé que oh, c'est pas grave, oh, ça va, tout va bien. Et en fait, c'est faux. En fait, on est blessé et on ne veut pas le reconnaître. Elle me blessait, moi? Alors, il en faut plus que ça, franchement. En réalité, on est blessé et on ne veut pas le reconnaître. Donc, on est dans le déni. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le reconnaît pas que ça n'agit pas à l'intérieur de soi. C'est que si tu as été blessé et que tu ne le reconnais pas, je peux te dire qu'il y a un poison qui va couler au compte-gouttes, mais qui va faire son travail petit à petit. Et quand tu verras la personne, tu verras comment tu ne seras pas bien du tout avec elle. Soit tu sais comme ça se passe dans les églises, il y a les allées, tu vois, puis tu vois la personne, puis bizarrement, tu passes dans une autre allée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu passes dans une autre allée? Non, c'est comme ça, je me balade à droite, à gauche. Ah ouais. En fait, tu n'as pas envie de la rencontrer, la personne. Donc, tu la fuis. À la longue, le ressentiment et l'amertume deviennent comme un feu qui vous ronge de l'intérieur et qui finit par embraser vos relations. Cette première liste contient donc les germes du rétablissement de vos relations. L'objectif ultime sera, mais ce n'est pas pour cette étape-là, ce sera pour la prochaine étape, il ne faut pas griller les étapes, allons-y étape par étape. L'objectif ultime sera de pardonner et d'être ainsi libéré de chaque personne qui vous a blessé. Pour élaborer cette liste, utilisez une feuille ou votre cahier de bord que vous utilisez pour la restauration. Dressez-la à partir de 5 aspects suivants. Vous mettrez le nom de la personne, la nature de la relation que vous aviez avec elle, décrivez l'offense subie, l'effet que cela a eu sur vous, quelle a été votre réaction par la suite. Voilà, on fait un vrai nettoyage de nos relations. Au cours de la rédaction de cette liste, certaines émotions remonteront immanquablement à la surface, soit de la douleur, soit la honte, soit la culpabilité, soit la colère. Ne les repoussez pas, ne les réprimez pas. exprimez-les. Accueillez le ressentiment que vous avez. C'est normal que vous ayez des émotions. Et comme ils ont été réprimés, donc laissez-les aller. Pleurez ce qu'il y a à pleurer. Il faut que vous alliez au bout du processus. La deuxième liste, les personnes que vous avez blessées. Pour cette seconde liste, vous allez procéder de la même manière que lors de la rédaction de la liste précédente. Donc le nom, qu'est-ce que vous entreteniez comme relation et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, hein, vous verrez ça avec le papier. En considérant les personnes que vous avez offensées, vous commencerez à découvrir que vos réactions, vos comportements, votre mode de fonctionnement les ont sans doute affectés. Donc le conseil, ne soyez pas sur la défensive et ne tentez pas de vous justifier en pensant qu'après tout, c'est leur faute. Voyez plutôt votre part de responsabilité dans la manière que ce conflit a pris place. Et vous en apprendrez peut-être encore sur vous-même. Ouais. Il y a le papier qui est là, tu l'auras. De toute façon, après, il faut que tu le fasses sur ton cahier. Ça, c'est un exemple que je donne. Après, tu le recopies sur ton cahier. D'accord ? Et quand vous allez être honnête avec vous-même et regarder pourquoi vous avez blessé la personne, eh bien, vous risquez, si vous avez été honnête dans l'inventaire de l'étape 4, vous allez retrouver des similitudes de votre comportement. On voit des dysfonctionnements qui réapparaissent sans arrêt dans votre relation avec les autres. C'est ça qu'il faut guérir. Alors, le travail se fait, et plus on met les choses à la lumière, plus on voit nos dysfonctionnements, nos manières de fonctionner avec les autres. Et pourquoi ça, c'est important ? Ben pour ne pas reproduire sans arrêt les mêmes erreurs. Dénoncer les dysfonctionnements qu'il y a en moi. Vos réactions ont pu jouer un rôle majeur dans la détérioration de la vie des personnes que vous avez blessées. Voici par exemple quelques exemples. Des problèmes financiers continuent et une façon irresponsable de vivre et de gérer vos biens ont causé des difficultés à votre famille. Autre chose, votre susceptibilité et vos réactions impulsives ont affecté et intimidé votre entourage. Comprenez que tout ça, on est dans le cadre de la restauration. Vous voyez, quand vous faites la paix avec vous-même, et ça c'est très important de comprendre ça, quand on fait la paix avec soi-même, parce qu'on comprend que ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a défini. Donc on n'est pas parfait, mais on fait la part des choses et on fait la paix avec nous-mêmes, on fait la paix avec notre humanité. Qu'est-ce que ça a à voir ? Normalement, ça devrait déboucher que vous devriez être moins susceptible, moins impulsif. Parce que avant, votre susceptibilité et vos réactions impulsives venaient du fait que vous n'étiez pas sécure avec vous-même. Vous n'étiez pas en paix avec vous-même. Et donc, quand quelqu'un vous faisait un reproche, enfin, vous l'interprétiez comme un reproche. En fait, quand quelqu'un vous disait quelque chose, ce n'était pas un reproche, c'était pour que vous changiez vos habitudes, vous changiez votre comportement parce que ça blesse la personne. Eh bien, vous montiez dans les tours et vous aviez une réaction impulsive, une réaction de susceptibilité. Mais pourquoi ? Parce que vous interprétez ce qu'on vous dit comme un reproche. Et comme vous n'êtes pas sécure, comme vous n'avez pas une sécurité en vous parce que vous doutez de vous, alors c'est la colère qui sort, c'est l'impulsivité. Tu dis quoi ? Qu'est-ce que tu dis encore sur moi là ? Mais non, je ne suis pas comme ça moi. Comprenez bien que c'est compliqué de vivre avec ce genre de réaction. Hein ? Oui, ça se soigne. Ça se soigne quand on comprend que notre valeur vient de Dieu et qu'on n'est pas parfait et que si on n'écoute pas ce qu'on nous dit, on ne changera pas. On ne changera pas. On est ensemble, à moins qu'on soit des malades mentales. Mais normalement, si on est ensemble, c'est parce qu'il y a un minimum, on s'aime. Donc, si je dis quelque chose à l'autre, ce n'est pas pour le détruire. C'est simplement pour lui dire, écoute, quand tu agis comme ça, ça me fait mal. Ça me blesse. Et là, bon, on ne va pas partir dans l'enseignement du mariage, mais il faudrait reprendre l'enseignement du mariage, comprendre que quand on se marie, c'est pour donner le meilleur à l'autre. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas je viens dans le mariage et je pense à ma petite goule, pour rester poli, à ma petite goule. Non, non, on va dans le mariage parce qu'il y a un partage qui se fait et je veux te donner le meilleur de moi. Et l'autre te dit la même chose en simultané. Moi aussi, je veux te donner le meilleur de moi. Là, on est dans le mariage. Là, on comprend que moi, je vais faire plier ma volonté pour t'être agréable. Et l'autre fera la même chose. Ça, c'est le mariage. Mais si on rentre dans le mariage, que pour dire moi, 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 mais te marie pas. Te marie pas parce que tu vas souffrir. Je t'assure, tu prends la mauvaise direction. En fait, on devrait faire un enseignement au mariage avant et après l'enseignement du mariage, validé. C'est-à-dire, bon, maintenant que tu as entendu tout ce que tu as entendu, est-ce que tu veux toujours te marier? C'est ça qu'on devrait faire. Parce que les gens, ils se marient sans faire l'enseignement du mariage. Et puis, une fois qu'ils ont compris ce que c'est que le mariage, ils disent, ah, mais il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Faudrait peut-être qu'on fasse l'enseignement du mariage. Ouais, mais alors on s'est tellement fait mal, on s'est tellement blessé que il y a un boulot de folie parce qu'on a été trop loin. On s'est totoché.
Ça existe.
On s'est totoché. Donc il faudrait mieux dire, chérie, on va faire l'enseignement. Alors c'est pas peut-être pas chérie à ce moment-là, mais on dit, allons faire l'enseignement du mariage. On va regarder ce que c'est que le mariage. Et après, on verra si on veut toujours s'engager. Ben oui, il faut mieux savoir à quoi on s'engage. Quand tu signes un contrat, on te dit toujours, lisez les petites lignes. Hein? Et toi, tu ne lis pas les petites lignes. Et quand il y a un problème, tu dis, ben regardez, qu'est-ce qui était marqué là? Ah ouais, je ne l'avais pas vu. Non. Ah non, mais c'est de votre faute, c'est trop petit. Non, il faut lire avant le contrat. Le contrat, c'est regarde. Tu donneras le meilleur de toi-même à l'autre. Et l'autre donnera le meilleur de toi-même à l'autre. Et puis, genre, on peut rajouter dans les bons et dans les mauvais. Dans les mauvais moments. Parce qu'il y en a qui signent pour les bons. Et puis, pour les mauvais, c'est écrit en petite ligne, ils n'ont pas vu.
Mais quand on lit, on dit, il n'y a pas de la mort meilleure.
Oui, c'est ça. En fait, j'aurais pu lui donner le meilleur. Mais comme elle ne m'a pas donné le meilleur, ben, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'étais prêt à donner le meilleur, mais il fallait que l'autre commence d'abord. Oui. Compliqué, hein? Compliqué. Mais c'est tout ça, en fait. En fait, c'est nos relations. Hein? Nos relations, c'est ça. Et le mariage n'est pas assez enseigné. Je suis désolé. Des fois, je fais des enseignements au mariage. J'ai 3 couples, 4 couples. Mais je dis, ah bon, ben les autres, ça doit bien marcher. Puis après, j'entends dans l'église, priez pour un tel, priez pour le couple un tel, priez pour le couple un tel. En fait, tu t'aperçois que les mariages sont en mauvaise santé. Mais personne n'y a aux enseignements. C'est comme si je te disais, ben, écoute, tu sais quoi? Regarde, il y a la voiture qui est là, tu n'as pas ton permis. C'est pas grave. Rentre dans la voiture et file. Conduis. Mais c'est un peu ça. Je rentre dans le mariage, je ne sais pas ce qui m'attend, mais ce n'est pas grave, roule ma poule et puis on verra bien. Et quand on se prend le virage, tu sais, quand on se prend l'accident, on dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu n'as pas compris le mariage, ce que c'est. Non, mais moi je dis aux gens, quand j'enseigne le mariage aux jeunes, je ne leur fais pas de cadeau. Hein. Je leur dis, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui vous attend. Et franchement, il y a des fois, il y en a qui doivent se dire, t'es Bertrand, il n'a pas envie qu'on se marie. Non, non, pas du tout. Il faut que tu saches ce qui va t'arriver, parce que ce qui va t'arriver, là, ce que je te dis, ça va t'arriver. Tu sais, les jeunes, ils arrivent dans le mariage, ils ont vu leurs parents. Ils ont vu les parents. Bon, les parents étaient arrivés au stade de la colocation, tu vois. Et eux, ils sont amoureux, ils s'aiment, tu vois. Donc, ils disent, ça, c'est les parents, ça, mais ils ne s'aiment pas. Mais nous, c'est différent, on s'aime. Je leur dis, si vous ne suivez pas l'enseignement du mariage, dans 15 ans, vous voyez vos parents là? Ben, ça sera vous. Ça sera vous. Vous serez dans la colocation. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le mariage, c'est une invention de Dieu. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Et c'est Dieu qui a mis les règles du mariage. Et nous, les êtres humains, on dit, ouais, mais nous, ce n'est pas grave. On prend le mariage que Dieu a fait, mais on va faire avec nos règles. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Je te le dis, ça ne marche pas. Si tu ne reviens pas dans l'enseignement du mariage, c'est quoi le mariage? Eh bien, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Et si tu penses que là, ton mariage, tu le rates à cause de l'autre, tu te mets le doigt dans l'œil. Je te dis, tu vas refaire un autre mariage, tu n'as pas réglé le problème, ça sera la même chose jusqu'au jour où tu comprendras. Mais c'est peut-être pas l'autre le problème alors. Ben non, c'est pas l'autre le problème. C'est que tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage. Et je peux vous dire, je vois ça tout le temps, tout le temps. Ça fait 18 ans que je suis là-dedans. Eh bien, je peux vous dire que ça ne loupe pas. Tous les gens qui ont conçu le mariage à leur façon, ça ne marche pas. Le mariage, ben là, vous me poussez dans le mariage. Tu me pousses tout seul dans le mariage. Le mariage, c'est un don de soi. Vous l'entendez bien, ça, hein? Le mariage, c'est un don de soi. Il n'y a pas d'amen? Amen? Le mariage, c'est un don de soi mutuel. Mutuel. Je me donne à toi et tu te donnes à moi. Si ce n'est pas ça, le mariage, alors tu es sûr que ton mariage ira à la dérive. C'est certain, certain, certain. Bon, on ne va pas faire la soirée sur le mariage parce que là, il y en a pour un moment. On continue. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme problème? À la place d'assumer votre propre responsabilité devant certaines déconvenues, vous avez blâmé, critiqué les autres en leur laissant croire que c'était eux les coupables. Espèce de manipulateur. Vous avez aussi les problèmes sexuels, l'adultère, la pornographie. Là aussi, ce sont des choses réelles. La pornographie, ça vient tuer un couple. Là aussi, pareil, dans l'enseignement du mariage. Bon, je reviens un petit peu dans le mariage. Eh bien, c'est la même chose. Je chope les jeunes, hein, et puis je leur dis, ils veulent me faire croire qu'ils n'ont pas de problème. Et franchement, j'ai 63 balais, hein, franchement. Ils vont me faire croire à moi qu'ils n'ont pas de problème. Je dis, mais c'est quoi ton problème? C'est pas grave, tu vois. Mais si on ne le règle pas maintenant, ce n'est pas dans le mariage que tu vas le régler. Ce sera très compliqué dans le mariage. La pornographie, c'est 80%. 8 sur 10. Mais ça va augmenter. Parce qu'avec Internet, là, avec le téléphone, là, je peux vous dire que l'âge n'a pas cessé de diminuer. Vous voyez, on est passé de 14 ans avec des DVD et tout ça. On est passé à 13 ans. On est passé à 12 ans. On est passé à 10 ans. Et là, on est en dessous de 10 ans. À la récréation, les gamins se passent, regardent les films porno. Et si on n'enseigne pas la sexualité dans nos églises, hein, demain soir, gloire à Dieu, j'enseigne la sexualité aux jeunes. Donc s'il y a des jeunes, vous êtes invités demain soir à la possession. Si on n'enseigne pas la sexualité aux jeunes, c'est le monde qui va enseigner la sexualité. Et quand vous avez comme image de la sexualité que la pornographie, mais c'est une catastrophe. On est tellement loin de ce que Dieu a fait pour la sexualité. Si votre référence, c'est la pornographie, ouais, je dis au gars, mais franchement, mec, là, t'es mal barré. C'est une catastrophe. Vous voyez? Donc, tout ça, encore une fois, c'est manque d'enseignement. Qu'est-ce qu'on a encore? Votre peur d'être abandonné. Ça aussi, ça existe. Vous voyez, par rapport à l'histoire que vous avez traversée, la peur d'être abandonné vous a amené à développer diverses stratégies de contrôle des autres, bien souvent motivées par une jalousie excessive ou une insécurité maladive. Là aussi, j'ai rencontré des gars qui ont connu l'abandon, qui ont connu le rejet, qui ont connu tout ça. Eh bien, on revient toujours au même problème. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils sont dans une insécurité. Et donc, l'insécurité, ça développe une mentalité où on n'a pas confiance en soi, on n'est pas sécure. Et donc, finalement, vous croyez que vous êtes avec quelqu'un et inconsciemment, vous savez ce que vous vous dites inconsciemment? Inconsciemment, vous vous dites, hey, c'est ce qui va se passer. Un jour, elle va se réveiller et elle va voir qui je suis. Et elle va se barrer. Et oui, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, on pense qu'on n'est pas digne de la personne avec qui on est, qu'un jour, elle va se réveiller, puis elle va dire, mais je suis avec un naze, je me casse. C'est ça qu'elle va penser? Non. Mais ça, c'est, il faut aller nettoyer tout ça. Parce que ça, c'est des gens qui contrôlent après, qui sont dans un contrôle excessif, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en contrôle excessif. Mais ça, je vous dis, c'est sérieux. Votre susceptibilité vous a amené à avoir des comportements déplacés, des paroles non appropriées, avec un ton agressif, mettant les autres dans une position inconfortable. Là aussi, il y en a qui ont démissionné. Parce que le couple, évidemment, que quand on se met ensemble, ben ça change la donne. Avant, on se voyait que pour les bons moments. Ok, c'était cool la vie. Puis là, on se met à vivre ensemble. Vivre ensemble, 24 heures sur 24, 365 jours. Vous croyez que l'autre, il peut cacher là tout ce qu'il a caché jusqu'à maintenant? Ben non. À un moment, vous allez comprendre, il y a des choses bizarres. Tiens, je n'avais pas vu ça chez lui. Mais non, tu ne l'avais pas vu parce que tu ne l'as jamais vu dans telle situation. Mais comme dit Créole, c'est une expression ça en créole ça, pèse sur la queue et tu vas voir comment ça bouge. Tu vois? Mais c'est ce qui se passe. Commence à le titiller dans les endroits où il n'aime pas. Et puis tu vas voir un peu sa réaction. Donc là encore, ben, tu veux amener des choses à la lumière. Tu veux que ton couple s'améliore. Donc tu dis, ben, tu vois chérie, ça, il faudrait que ça change. Ça, il faudrait que ça change. Mais l'autre, elle prend ça pour un reproche. Et l'autre va dire, quoi? Qu'est-ce que tu me reproches encore? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Elle va sortir la mitraillette. Tu vois? Et qu'est-ce que... Et là, l'autre, il abandonne. Parce qu'il dit, oh, c'est bon. Ok, d'accord, c'est bon. Et puis, on ne parle plus du sujet. Est-ce que le problème est réglé? Ben, le problème n'est pas réglé. Et on l'a mis sous le tapis. Et puis, on va mordre sa chic. Tu vois? On va dire, bon, hein, faut que je supporte. Allez, je vais supporter. Ouais, tu vas supporter. Jusqu'au jour où la marmite va être pleine, et puis là, tu vas remettre ça sur le tapis, et boum, on est reparti dans une île. Et c'est parti. C'est ça la réalité. Rappelez-vous ceci, il y a un travail en profondeur à faire, parce qu'il est plus difficile d'identifier les personnes à qui nous avons fait du tort que l'inverse. L'important, c'est de se concentrer sur l'élaboration d'une liste détaillée de ceux à qui vous avez fait du tort. Au moment où vous vous préparez à la rédiger, ayez de la compassion pour vous-même. Nous sommes tous imparfaits et reconnaître nos erreurs sans culpabilité morbide nous aidera à nous accepter et à accepter les autres. Bien que vous puissiez vous sentir honteux et coupable, ne laissez pas ces émotions vous submerger de façon maladive. Prenez le temps de prier avant et demandez à Dieu de vous aider dans cette étape. Pour vous aider, pensez en particulier aux personnes que vous évitez ou que vous craignez de rencontrer. Ça constitue un indice probant que vous avez quelque chose qui n'est pas réglé avec elles. Prenez tout le temps nécessaire pour bien identifier les paroles blessantes que vous auriez pu prononcer ou les réactions offensantes que vous auriez eues. Au fil des années, il se peut même que vous soyez endurci. Il est facile d'être animé d'une sourde colère. Ça s'appelle un agressif passif. C'est-à-dire que, en apparence, tu crois que la personne n'a pas de problème, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Ça s'appelle un agressif passif. Il est facile d'être animé d'une sourde colère qui pousse à une subtile vengeance. Le cœur agit parfois comme une éponge, absorbant les frustrations, accumulant les déceptions, et peu à peu perdant sa capacité de ressentir des sentiments nobles. Le cœur est endurci. C'est un travail qui va se poursuivre au-delà de cette semaine qui arrive. Donc là, on a 2 semaines devant nous. Ce travail peut continuer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et parfois même sur plusieurs mois, selon l'ampleur des dommages. Le but est de nettoyer votre cœur de toute cette culpabilité morbide afin que le diable n'ait plus d'emprise sur vous et que vous vous sentiez libre et sécure. Plus de honte, plus de culpabilité, plus de peur, c'est le chemin de la liberté. Amen. C'est le travail qu'on doit faire. Ce ne sont pas les erreurs d'une personne qui la définissent, mais sa capacité à réparer les torts causés. Donc, on a fait quoi? On a consenti à faire amende honorable. Voilà la dernière partie. L'expression implique une reconnaissance de sa faute, une confession à la personne lésée. Oui, c'est vrai, j'ai eu tort. Une demande de pardon et un engagement à réparer dans la mesure du possible. Déjà, à la sixième étape, on a abordé la question du consentement. Cette étape-ci s'inscrit dans la même logique. Vous n'êtes donc pas obligé ni contraint de le faire. Mais le consentement à faire amende honorable est l'aboutissement de tout le travail que vous avez fait précédemment. Cela signifie que vous voulez et désirez ardemment effectuer les correctifs qui s'imposent, réparer ce qui a été brisé, et là j'ai rajouté, dans la mesure du possible. Bien sûr, la façon la plus facile consiste à balayer tout ça, à mettre tout ça sur le tapis, oublier et passer à autre chose en se disant que bon, les gens ne se rappellent plus les offenses subies. Lorsque vous réfléchissez ainsi, vous vous défilez encore une fois et vous évitez d'affronter les réactions potentielles des gens que vous avez lésés. Regardons un instant l'histoire de Zachée. Zachée, il a saisi l'opportunité d'une autre vie. Sa réaction spontanée et son désir de réparer nous démontrent qu'il a pris conscience de ses torts. L'histoire de Zachée, c'est aussi un peu celle de nos vies. Nous aussi, nous avons une histoire enfouie à l'intérieur de nous. C'est en elle que réside l'explication de nos conduites et de nos réactions. Notre façon de concevoir les choses, notre réaction, elle trouve l'explication dans notre histoire qui est enfouie au fond de nous. Cette étape nous montre que nous pouvons transformer notre passé en réglant les choses de manière définitive. Le concept de repentance, c'est ce qu'a fait Zachée. C'est indispensable dans la vie de disciple et très exigeant. Il nous amène à prendre notre part de responsabilité dans nos histoires. Mais surtout, il nous incite à porter du fruit digne de cette repentance. Cela veut dire une vie renouvelée, où les gestes du passé sont corrigés au fur et à mesure de notre marche chrétienne et où il y a réparation pour ceux que nous avons lésés. On prend conscience des erreurs qu'on a faites, de la manière dont on s'est comporté, des paroles que nous avons dites. Et au fur et à mesure, on répare tout ça, on demande pardon et on prend conscience de notre manière de fonctionner de façon à changer cette manière de fonctionner. C'est une prise de conscience. Il n'y a pas de déni. Il n'y a pas de dire « ouais, c'est pas grave ouais, ». Non, non, non. Regarde ta manière de fonctionner. Elle n'est pas bonne. Elle fait du mal. Hein? Et on tisse pas des relations pour faire du mal aux gens. En résumé, lorsque nous commençons notre cheminement au travers de ces étapes, nous ne voyons que le mal que les autres nous ont fait. Mais au fur et à mesure que nous progressons, nous nous rendons compte que nous avons joué un rôle dans le déroulement de nos relations. Ainsi, lorsque nous cessons de nous considérer comme une victime, nous découvrons que nos relations sont le reflet de nos problèmes non résolus, de nos peurs et parfois de nos croyances erronées. Enfin, lorsque nous découvrons que nous faisons des victimes par notre tendance à blâmer, à critiquer, à juger, nous comprenons davantage ceux qui nous ont blessés, peut-être sans le savoir. À ce moment-là, nous cessons de lutter avec les autres et avec nous-mêmes, car nous quittons les rôles qui nous ont enfermés, sclérosés, paralysés et endurcis. Nous choisissons de guérir et de grandir. Nous apprenons à mieux nous connaître et surtout à nous pardonner et à pardonner aux autres. C'est ainsi que nous réapprenons à aimer de l'amour de Dieu. On avance, on progresse, on comprend les choses, on pardonne parce qu'on ne veut plus être prisonnier dans cette culpabilité-là. Donc on se libère de tout ça, on pardonne à ceux qu'on doit pardonner et on comprend qu'on ne recommencera pas ses erreurs parce qu'on n'est pas appelé à ça. Donc petit à petit, on voit que la guérison, elle prend forme en nous, elle prend corps en nous. On réalise que eh ben, ça... Je parlais comme ça parce que j'ai appris à parler comme ça, parce qu'il y a eu des choses dans ma vie où j'étais amené à... J'étais trop gentil et moi, je me suis endurci. Mais finalement, ce n'est pas bon. Donc, on réalise tout ça parce qu'on est appelé à être en paix avec les êtres humains. On est, on est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes avec les êtres humains. On est, mais oui, c'est tout le fruit de l'esprit, effectivement, qui vient faire son travail en nous. Hein, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit de patience, un esprit de douceur. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'être en paix. En paix avec les gens. Ça ne sera pas facile, mais moi, je fais ma part. Et puis, cette paix-là, elle est surnaturelle, cette façon d'appréhender les choses. C'est surnaturel. Je ne veux plus réagir par rapport aux autres, comment ils réagissent. Ils s'énervent, mais qu'ils s'énervent tout seuls. Ils se fâchent, mais qu'ils se fâchent tout seuls. Moi, je ne veux plus vivre comme ça. Tu comprends? Maintenant, moi, j'appartiens à Jésus-Christ et je ne veux plus qu'on m'oblige à vivre d'une certaine manière en m'intimidant, en me faisant peur ou je ne sais pas quoi. C'est terminé, ça. Je ne veux pas passer ma vie dans ces erreurs-là. Alors, soit tu marches avec moi, ou soit tu prends ta route. Et oui, il faut savoir, à un moment dans la vie, on fait des choix, et puis voilà, on dit, voilà, moi j'ai choisi, moi je veux rester en paix, moi je veux... Si toi tu ne veux pas, ben c'est ton problème. Mais moi je ne suis pas en codépendance avec toi, je ne vais pas dépendre de toi. Et c'est pour ça que demain soir, je vais dire aux gens, je vais expliquer aux jeunes qu'il faut choisir son mari avec des critères bibliques. Ou sa femme, avec des critères bibliques. Parce que sinon, eh ben après, ne te plains pas. Parce que déjà, nous, en Christ, vous voyez le boulot qu'on a déjà ? En Christ ? Mais alors, si tu n'as pas Christ, alors là, bon courage. Si tu n'as pas Christ, déjà avec Christ, ce n'est pas facile. Hein ? Mais alors, si tu n'as pas Christ, bon courage. Beaucoup. Ben oui, c'est normal. Quand on connaît la nature de l'être humain, quand on connaît sa nature, le cœur tortueux de l'être humain, ben tu sais, une fois que Eros sera fini, bon, pour les meilleurs, ça dure 2 ans. On profite bien pendant 2 ans. Hein, le gars va faire des efforts, ou la femme, tu vois, pendant 2 ans, Eros, tu vois, t'es poussé, t'as des ailes, tu as acheté le bouquet de fleurs, tu fais les bisous, tu fais tout ça, papa. Et là, l'autre, ah, oh, j'ai trouvé la perle. Profite. Ça dure 2 ans, maximum, dans les statistiques. Profite. Après, bizarrement, au bout de 2 ans, bouquet de fleurs, des bisous, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, t'as rien fait. Eros est en train de partir. Bye bye, Eros. Et la réalité arrive. Et là, bonjour les dégâts. Le gars n'est pas transformé. Le gars, il a des problèmes au fond de lui qui ne sont pas réglés. Le gars, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Tu comprends? Le gars est tout seul. Il est tout seul face à ses dysfonctionnements. Ah ouais. Ben, toi, femme battue, excuse-moi, mais je ne sais pas si tu vas plaindre le gars qui te battait. Ah non, je ne crois pas. Parce que là, tu ouvres. Ouais, ironiquement. Parce que là, je peux te dire, le gars, à moins que tu sois maso et que tu dis, ouais, ben, le pauvre. Moi, je suis bouc émissaire. Vas-y. Non. Si tu as envie de vivre, là, réfléchis bien à 2 fois. Là. Prends un disciple, parce que je peux te dire, il faut qu'il t'aime plus que toi. Aimer de l'amour de Dieu signifie que nous ne voulons plus avoir de mauvais sentiments, de mauvaises pensées envers telle ou telle personne. Nous voulons avoir un cœur pur. Matthieu 5, 8 nous dit ceci: « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cet amour qui nous permet de pardonner, de libérer nos cœurs, n'est pas à confondre avec notre amour à nous, l'amour humain philéa. Philéa, ce n'est pas un amour qui rentre dans le... Ça, pardon, philéa, c'est un amour qui rentre dans le registre des affinités. C'est pas trop difficile d'aimer les gens avec qui on se sent bien. T'as pas trop d'efforts à faire. Tu vois? Mais aimer les gens comme ils sont, là, tu as besoin de l'amour de Dieu. Là, ton petit amour à toi n'est pas assez costaud. Là, tu vois? Et donc, on a besoin de cet amour agapé qui provient d'une victoire sur nous-mêmes. C'est une victoire sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Tu es appelé à aimer les gens que tu rencontres. Et dans les gens que tu rencontres, il n'y aura pas tous des gens par affinité. Mais là, la différence, elle est là. Mon amour à moi s'arrête là, et après, c'est l'amour de Dieu qui prend le relais. Parce qu'avec l'amour de Dieu, je suis capable d'aimer de la même manière que Dieu aime. Et là, là, on est dans le dur. Là, on est dans la croissance. Là, on est dans le dur. Parce que là, c'est une victoire sur toi-même. Là. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Là, tu peux le dire. Parce que là, c'est vrai. Et ça, c'est une victoire qui s'obtient dans une relation intime avec le Seigneur et qui permet à son amour d'être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a besoin de Dieu pour vivre nos relations. C'est pas avec notre petit amour à nous qu'on va réussir à avoir des relations empreintes de liberté, saines, avec des bonnes limites. Tu vois, on a besoin de Dieu. Et cette vérité biblique est pleine de sagesse, car elle nous permet de nous libérer sans compromettre notre santé mentale, physique, spirituelle. En particulier lorsque les blessures proviennent de personnes présentant des troubles mentaux sévères ou des dysfonctionnements relevant d'abus divers. Et la liberté, il faut la gagner, notre liberté. D'accord ? Il ne faut pas se retrouver sous l'emprise de quelqu'un qui a ses propres problèmes et tu vas être contaminé par ses problèmes. À cette étape-ci, vous n'agissez pas encore. D'accord ? C'est les listes pour l'instant. On fait la liste. Mais vous êtes en préparation pour la prochaine étape. Concentrez-vous sur les listes à établir et résistez à l'idée de comment vous allez faire pour affronter certaines personnes. Commencez pas à rentrer là-dedans. Pour l'instant, faites les listes des gens qui ont traversé votre vie. Chaque chose en son temps. À chaque jour suffit sa peine. Chacune des étapes constitue le maillon d'une grande chaîne menant à la restauration, à l'épanouissement de notre vie. Vous êtes en train de reconstruire un maillon, l'un après l'autre. Le défi, c'est de rédiger la liste et d'identifier les problèmes que vous avez causés ou que les autres vous ont causés. Amen. Voilà un petit peu ce qui vous attend dans ces prochains 15 jours de faire cette liste. Je vais donner à ma chère et tendre épouse le soin de distribuer tout ça. Donc, ce n'est pas un travail les plus faciles, mais encore une fois, pensez que vous nettoyez votre vie intérieure, vous nettoyez les placards des squelettes de façon à repartir sur quelque chose de clean, quelque chose de propre. Et après, ça sera de l'entretien. Après, vous n'allez plus vouloir aller jusque-là parce que vous n'allez pas remettre des cadavres dans votre placard. Donc, vous allez faire le nécessaire. Vous allez pardonner tout de suite. Vous allez faire attention tout de suite. Vous n'allez pas laisser envenimer les choses de façon à ne pas retomber dans les mêmes travers. Ça va ? C'est pas trop dur ? Un peu violent ? Non ? Bon. Réaliste ? Alléluia. On va prier. Bon, c'est mieux que susceptible. Allez, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette soirée, Seigneur. Merci encore de nous accompagner pendant ces deux semaines qui viennent, là, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, être soumis à ton esprit et de vraiment rédiger ces deux listes, Seigneur, afin que nous puissions nettoyer notre vie intérieure. Et être libéré, délivré, être vraiment, Seigneur, avoir cette tranquillité au fond de nous, que nous avons fait le nécessaire, que nous avons réparé nos torts, que nous avons rectifié ce qu'il y avait à rectifier, et que maintenant, nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait, et que maintenant, c'est une nouvelle vie dans nos relations qui commence, que maintenant, on verra ça dans la prochaine étape, que maintenant nous allons apprendre à ne plus réagir de cette façon-là. Nous allons apprendre maintenant à reconnaître nos torts immédiatement, à reconnaître nos erreurs immédiatement, de façon à ne pas casser les relations, de façon à ne pas blesser les autres, et de demander à Dieu humblement de changer nos comportements, de changer nos réactions, que nous puissions soigner nos relations, entretenir nos relations, et que même si on n'est pas d'accord, eh ben, qu'on puisse, quelquefois, s'il y a séparation, il y a séparation, mais il y aura séparation dans des bons termes, pas dans des termes où on a blessé et on ne s'est pas pardonné, et ça nous met un poids de culpabilité. Non, Seigneur, tu vas mettre de l'ordre dans nos vies. Tu vas mettre de l'ordre dans tout ça, Seigneur, afin que tu nous apprennes à gérer nos relations, tu nous apprennes à optimiser nos relations et que nous ne soyons plus sous l'emprise de qui que ce soit, mais que nous soyons libres comme tu nous as rendus libres, Seigneur. Et l'apôtre Paul pourra dire, ne vous remettez pas sous un joug étranger. Vous avez été libérés et ne c'est pas pour vous remettre sous un joug étranger. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre cette liberté que tu as acquise à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Que cette liberté, nous puissions la chérir. Que cette liberté, Seigneur, nous ne puissions pas faire de compromis sur cette liberté, Seigneur. Apprends-nous à respecter les autres et que les autres nous respectent aussi, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen.